24 et 25 janvier, l'Université de Lille Sciences Humaines et Sociales organise en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Lille une série de conférences sur Goya. Nous allons présenter cet événement avec Madame Maude Le Guélec, qui est enseignante-chercheure à l'Université de Lille Sciences Humaines et Sociales, histoire, histoire de l'art et littérature de l'Espagne des 18e et 19e siècles. Bonjour Madame Le Guélec.
Bonjour.
Donc, une idée, une initiative de l'université, c'est bien cela ?
Oui, à la base, l'événement est né pour aider la préparation au concours d'enseignement, CAPES, agrégation, pour les étudiants qui cette année doivent travailler sur Goya. Et puis, à partir de là, le projet s'est un petit peu transformé, il a pris un petit peu d'ampleur. Et bon, pour différentes raisons, on est arrivé sur ce partenariat avec le Palais des Beaux-Arts et deux journées qui se divisent sur les deux lieux dans les deux institutions.
Alors, c'est vrai que pour un thème sur Goya, on a la chance au Palais des Beaux-Arts d'avoir des œuvres assez exceptionnelles.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles l'événement s'est un peu transformé. C'est parce que on a la chance au Palais des Beaux-Arts d'avoir une série complète de la collection des Caprices, qui est une collection de gravures particulièrement satiriques de Goya. D'ailleurs, ils ont été retirés de la vente à son époque 15 jours après la publicité à cause de son potentiel subversif. Et donc, il y a un exemplaire original de ces gravures au Palais des Beaux-Arts. Et puis, il y a aussi deux magnifiques tableaux, Les Vieilles ou Le Temps, et puis Les Jeunes ou La Lecture, deux tableaux qui ont une histoire mouvementée, qu'on a longtemps cru comme étant un diptyque, et puis qui ne l'est absolument pas, et qui a aussi un grand potentiel satirique. Et donc, avec ces œuvres, on a aussi des conservatrices spécialisées, voilà. Et du coup, à partir de là, on a créé ce programme où il y a en même temps des historiens de l'art, des hispanistes, des spécialistes de l'histoire espagnole, et puis des conservatrices du musée qui vont intervenir. Donc voilà, un beau programme.
Alors, Goya, bon, c'est un nom, il a un prénom un peu plus compliqué que ça, d'ailleurs, son nom, en fait, hein, puisque qu'il s'appelle en fait
Francisco Goya y Lucientes.
Voilà. Il vient de quelle ville au départ ?
D'un petit village, enfin il est né dans un petit village à côté de Saragosse, donc il est aragonais.
Mmh. Ça se situe où ? En Espagne, cette
dans le nord.
Dans le nord. Hein. Ouais. Donc est-ce qu'en étant dans le nord, son influence est très différente que s'il était dans d'autres régions ?
Non, en réalité, son influence, sa véritable influence naît quand il s'installe à la cour, quand il s'installe à Madrid et qu'il obtient la reconnaissance des monarques, des nobles, de l'aristocratie. Tout se joue là-bas. C'est-à-dire qu'au départ, il n'a pas de carrière du tout, d'ailleurs. Il peine un petit peu. Ensuite, après un séjour en Italie, il arrive à avoir une reconnaissance comme artiste, mais à Saragosse seulement. Ça doit pas lui suffire parce que voilà, tout se joue pour un artiste au 18e, il faut devenir peintre à la cour, il faut devenir peintre du roi. Et donc c'est à partir du moment où il s'installe à Madrid qu'il commence à être connu, et puis surtout à partir du moment où on le nomme peintre de cour, que vraiment sa renommée est lancée, quoi.
Donc là, on est en quelle année à peu près ?
Il s'installe à Madrid en 1775, et puis petit à petit, il obtient les faveurs de grands aristocrates. Et en 1789, il est nommé peintre du roi. Et ensuite, il faut encore attendre 10 ans pour arriver à la reconnaissance suprême, qui est en 1799, quand il est premier peintre du roi.
Alors, on a beaucoup en vision, on va dire, hein, des tableaux assez forts, assez puissants, assez chocs parfois. Est-ce qu'à l'époque où il émerge à la cour du roi, il a déjà ce caractère, un peu ironique sur les gens, ou est-ce qu'il est encore tout à fait comme les autres peintres, et qu'est-ce qu'il différencierait à ce moment-là des autres peintres qu'il soit entré à la cour?
Alors déjà, c'est pas le seul, les autres aussi, tous ceux, en principe, tous ceux qui sont parvenus jusqu'à nous, c'est parce qu'ils ont été peintres de cour qu'ils ont été reconnus. Mais c'est vrai que Goya, on le reconnaît un peu plus, on se reconnaît un peu plus dans l'œuvre de Goya, et c'est aussi pour ça que le sujet valait la peine d'être développé, parce que c'est un artiste assez complexe du fait de ce que vous soulignez, c'est-à-dire... on connaît de Goya des œuvres assez critiques, assez mordantes, mais en même temps, Goya, c'est aussi celui qui peint la famille de Charles IV, c'est aussi celui qui représente les familles aristocratiques de l'époque. Et donc, il est complexe parce qu'il a ces deux facettes. La facette la plus officielle de l'artiste courtisan. Alors, on a l'impression... nous, avec nos codes esthétiques, qu'il est parfois mordant vis-à-vis de ses mécènes, ce serait sûrement un contresens. C'est une façon de rendre hommage sans maquiller, sans transformer la réalité, mais pour autant, il rend hommage. Donc, il a cette facette officielle de courtisan, qui est celle qui lui permet d'avoir une vie aisée, d'être connu et d'avoir voilà, sa rente annuelle. Et puis, il y a une facette qui, à l'époque, n'était pas connue, ou très peu, de ses intimes, qui est toute une partie de son œuvre plus satirique, plus critique, plus polémique, qu'il peint sur les murs de sa maison, à la fin, enfin, déjà assez âgé, qu'il représente sur des séries de dessins, ou qu'il grave. Notamment dans les Caprices, mais qui donc vont être retirés de la vente par lui-même. Hein. Il sent que c'était un petit peu trop osé. Et par les Désastres de la guerre, qui aussi sont des gravures particulièrement dures et qui ne vont pas du tout être publiées de son vivant.
Alors, on a bien compris que à la cour, il a une fonction, hein, un peintre officiel, on va dire, que là, il a un contrat qui le fait vivre et qui l'honore, et il a un aspect un peu plus privé. Ses œuvres privées, elles s'adressent dans son esprit à qui ?
Alors, il y a certaines œuvres qui, a priori, étaient pour lui et ses amis, où il s'exprime sans, a priori, véritable intention de public. Et puis, les gravures, c'est très différent, parce que le simple fait de choisir de graver, ce sont des œuvres qu'on reproduit, ce sont des œuvres qui ne sont pas uniques, et qui, justement, ont l'avantage de pouvoir être beaucoup plus publiques qu'un portrait de noble qui va être accroché dans un salon et que seul le petit cercle d'intime va voir. Et du coup, ces gravures-là, en principe, il avait l'intention de les diffuser de manière plus large. Alors, pas à tous, puisque le coût n'était pas anodin, mais peut-être à des bourgeois, à des artisans aisés, à un public éventuellement étranger aussi. Et il avait cette intention, en principe, de diffusion, mais une intention qui va être retardée. Et c'est en fait après sa mort qu'on va reconnaître davantage, connaître et reconnaître cette face plus critique, plus sombre, plus engagée de l'artiste.
Donc après sa mort, c'est déjà bien après la Révolution française.
Ah oui, il est d'une grande longévité et il meurt en 1828 à l'âge de 82 ans peut-être, quelque chose comme ça, à Bordeaux. En exil volontaire.
Est-ce que ce qu'il avait, je vais dire, presque publié, on peut peut-être parler de publication avec cette impression possible, hein, à l'époque, presque comme un journal, hein, en fait, de témoin, quand on grave en multiples séries comme ça, on laisse une trace qui est l'image d'un public plus important. Donc c'est presque une façon de faire un journal, non ?
Oui, de plusieurs façons, parce que c'est vrai qu'il faisait aussi des albums de dessin, qui étaient aussi une façon de croquer la réalité de son temps. Dans les Caprices, c'est surtout les vices de ses contemporains, les vices moraux, sociaux. Et puis, les Désastres de la guerre, donc c'est une œuvre... sur laquelle se base notamment la journée du mardi 24 janvier. Les Désastres de la guerre, c'est même considéré par certains comme un reportage, un des premiers reportages de guerre. Et c'est aussi pour ça donc qu'on parle de la modernité de Goya et de sa complexité. C'est parce que cette série de gravures est un plaidoyer contre la guerre, mais pas seulement la guerre d'indépendance, qui est cette guerre qui éclate en 1808 et qui oppose les Espagnols aux Français. Donc Napoléon et son armée envahissent l'Espagne. Napoléon nomme à la tête de l'Espagne son frère. Les Espagnols ne se laissent pas faire et du coup éclate la guerre d'indépendance. Et donc les désastres de la guerre, c'est Goya représentant ce combat, cette lutte nationale des Espagnols contre les Français. Mais en réalité, ce qu'il fait, c'est peindre une guerre. N'importe quelle guerre, on voit pas de drapeaux, on voit pas. Alors il y a des uniformes, on peut reconnaître les Espagnols des Français, mais il y a une vraie volonté d'universaliser son propos. Et ce qu'il prétend faire, c'est dénoncer cette guerre. C'est-à-dire que contrairement à tout ce qui se fait de son temps et même longtemps après lui, il ne prétend pas glorifier les victoires des Espagnols, les valeurs patriotiques, raconter les grandes batailles et les grandes victoires. Ce qu'il fait, c'est montrer comment cette guerre et toute guerre finalement n'a pas de sens. Ceux qui pâtissent, ce sont les populations civiles. Et donc, ce qu'il montre, ce sont les combats à côté, les violences sur les populations civiles, les viols. Il montre les pillages, les incendies, la nécessité de fuir de son village, de sa ville occupée par les ennemis. Il montre les Espagnols mourant de faim, les tas de cadavres. Et donc, c'est un témoignage poignant et particulièrement moderne parce que, justement, il ne s'ancre pas dans l'Espagne du début du 18e, du 19e, pardon. Et son propos est vraiment un propos de dénonciation de toute guerre en tout temps et de ses conséquences sur les plus démunis, sur les plus faibles.
Donc lui témoigne de son temps et aussi de l'université, de ses problèmes liés à la guerre, hein, qu'on retrouve encore maintenant, malheureusement. Mmh. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des mouvements antimilitaristes ou anti-guerre, pacifistes, on va dire, ou est-ce qu'il était un peu isolé dans sa façon d'interpréter le monde?
Il y a à l'époque, je pense, en tout cas de ce qu'on peut voir, des discours qui ont été tenus et des actes, des manières de rejeter certaines guerres, notamment les guerres qui ne semblent pas avoir de sens, des guerres quand la France et l'Espagne sont alliées, la France entraîne la guerre contre son gré presque, dans des guerres, entraîne l'Espagne contre son gré, dans des guerres contre l'Angleterre, le Portugal. Et là, la population, effectivement, a tendance à ne pas comprendre l'utilité et à rejeter ce type de guerre parce que ça coûte, parce qu'on envoie des soldats, parce qu'ils meurent. Mais un discours anti-guerre, un discours pacifiste par principe et par tout temps, c'est relativement, à mon sens, nouveau, peut-être pas révolutionnaire.
Et dans la littérature espagnole ou européenne, on va dire, entre guillemets, de l'époque, est-ce qu'il y avait aussi des éléments qui pointaient comme ça pour critiquer les guerres ou les méfaits?
Il faudrait aller... la force du discours de Goya, c'est parce que ce sont des œuvres qui nous sont arrivées, qui sont devenues publiques, mais qui... pour lesquelles Goya avait la conscience qu'elles n'étaient pas admissibles par le public espagnol de son temps. C'est pour ça qu'elles n'ont pas été publiées. Il avait probablement l'envie, à un moment ou un autre, de les publier. Il y a eu des tentatives à des moments un peu plus apaisés, on va dire, de l'histoire espagnole en ce début de 19e. Mais du coup, on a accès à un discours fort et pour autant public. Alors que dans la littérature de l'époque est extrêmement contrôlée, censurée. Donc les auteurs sont eux-mêmes obligés de s'auto-censurer. Et du coup, on n'a pas ce genre de discours, à mon sens. Probablement qu'en allant voir dans les journaux intimes des grands intellectuels de l'époque, des hommes des Lumières, oui, il y a des plaidoyers anti-guerre sur les atrocités. Mais c'est vraiment un trait de modernité, malgré tout, de Goya, en tout cas au niveau artistique, clairement.
Et dans les musées internationaux, à partir de quel moment on peut accéder à ces œuvres ?
Alors, curieusement, Goya va être reconnu comme un génie d'abord par la France, avant de l'être par l'Espagne. Il est reconnu et connu de son vivant, mais il n'y a pas l'idée qu'il révolutionne l'art. Sauf que, aussi parce qu'on le connaît surtout pour ses portraits et ses œuvres publiques. Sauf qu'au 19e, les romantiques français vont avoir accès aux caprices. Ils vont avoir accès donc à des œuvres presque inédites, hein, pas tout à fait, mais presque inédites. Et ils ont donc récupéré l'artiste et forgé sa postérité. Et du coup, il va y avoir vraiment... Alors déjà, de toute façon, au 19e, en France, il y a une mode de l'Espagne. Il y a un goût pour la culture, les villages espagnols, la lumière espagnole, etc. Donc de toute façon, déjà ça aide, et Goya va vraiment être adopté par les romantiques et du coup diffusé. Et ensuite, il faut attendre en Espagne plutôt le dernier quart du 19e siècle pour que le Museo del Prado multiplie les œuvres en exposition. Avant, c'était extrêmement limité. Et petit à petit, il y a de plus en plus d'œuvres de Goya qui sont montrées au public.
Actuellement, est-ce que ces œuvres sont réparties dans le monde ou il y a encore une grosse concentration en Espagne ?
Il y a une grosse concentration en Espagne. Le mieux, c'est d'aller voir le Prado. Mais il y a... Alors déjà, les exemplaires des collections de gravures, comme il y a eu plusieurs exemplaires qui ont été achetés, qui ont été ensuite légués, etc., on peut en retrouver dans différents lieux. Et puis, il y a quelques œuvres parmi des grands tableaux aux États-Unis. Il me semble en Russie également, à la National Gallery à Londres. Donc des très grands musées ont malgré tout des œuvres parmi les œuvres fondamentales de Goya. Mais les plus connues, le 2 mai, le 3 mai, qui représente donc le début de l'insurrection espagnole contre Napoléon, sont au Prado. Les peintures noires, qui sont donc ces peintures qu'il a réalisées sur les murs de sa maison, sont au Museo del Prado. Donc il y a quand même une concentration assez majoritaire là-bas.
Est-ce que des privés ont aussi des œuvres de Goya chez eux ?
Alors là, je serais incapable de vous le dire.
Il y a un marché de l'art aussi pour Goya
dans Oui. Il est bien coté, j'imagine.
Voilà. Donc actuellement, à Lille, il y a des œuvres qui existent, on peut les voir. Il y en a peut-être une qui va se promener prochainement.
Oui, apparemment, les vieilles. Donc, une des œuvres qui nous intéresse pendant la journée du mercredi 25 janvier, apparemment, va être prêtée, évidemment, de manière temporaire pour une exposition à Gand, me semble-t-il. Mais elle ne part que le 26 janvier. Voilà.
Donc, c'est le moment d'en profiter. Alors, on va rappeler ces journées avec les horaires et puis les lieux, bien sûr. Il y a deux lieux concernés.
Oui, alors donc le mardi 24 janvier, c'est une journée qui se déroule à l'université de Lille 3, l'université Sciences Humaines et Sociales, métro Pont-de-Bois, maison de la recherche. C'est un vrai labyrinthe, mais ce sera fléché. Et c'est donc une journée qui débute à 10h, qui se clôturera vers 18h. La première intervention, c'est une historienne de l'art espagnol qui s'exprimera en espagnol. Mais par contre, le reste de la journée, journée sera en français. Donc l'accueil est libre et gratuit. On parlera donc notamment des désastres de la guerre et donc du discours critique de Goya face à l'horreur. On parlera aussi de la postérité de Goya, comment justement ce discours très moderne sur la guerre va être repris ensuite dans la littérature espagnole du XXe, mais aussi dans l'art de la gravure, et notamment par des Britanniques, les frères Chapman. Donc un peu le parcours de Goya et de ses influences jusqu'à nos jours. Donc ça, c'est pour la journée du mardi. Et la journée du mercredi 25 janvier se déroulera au Palais des Beaux-Arts. Alors, il y a deux parties. La matinée, on aura la chance d'être dans les salles du musée face aux œuvres dont on a parlé, face aux caprices et face aux vieilles et aux jeunes. Mais bon, les contraintes font que du coup, on sera deux petits groupes de 25. Donc c'est sur inscription, c'est limité. Il reste vraiment pas beaucoup de place. L'après-midi, en revanche, sera dans l'auditorium, accès libre, gratuit, et débute à 14h30 avec différentes interventions. Cette journée se centre davantage donc sur la satire. Goya comme satiriste social, politique de son temps. Goya et puis aussi David, Jacques-Louis David, qu'on n'imagine pas trop en satiriste, mais une conservatrice du musée du Louvre viendra nous parler des dessins de David, donc contemporain de Goya, pour justement comprendre aussi comment, dans des œuvres privées, comme le sont les dessins, un artiste officiel et qui glorifie le pouvoir en place peut laisser libre cours à une facette plus critique, plus satiriste. Et ces journées se clôtureront avec la projection d'un documentaire, réalisé par Exhibition on Screen à l'occasion de la grande exposition des portraits de Goya qui a eu lieu l'année dernière à Londres. Et donc on clôturera voilà, les deux journées par ce documentaire.
Voilà, donc à l'initiative, on va le rappeler, hein, de l'Université de Lille Sciences Humaines et Sociales, une série de conférences donc, sur Goya, certaines encore accessibles. Est-ce que vous avez une page web où on peut voir un peu? Oui,
oui, alors bon, l'événement est annoncé sur le site du Palais des Beaux-Arts et puis sur le site de l'Université Lille 3. Notamment, le plus simple est d'aller voir l'agenda du laboratoire Cécile, Cécile avec deux L, où on trouve tous les détails, les contacts, le mien, pour s'inscrire éventuellement et puis pour avoir plus de détails. Et surtout, il y a le programme complet, l'affiche, la façon d'accéder, parce que l'auditorium du musée, c'est derrière, il faut accéder par la rue derrière. Voilà.
Donc, Maud Le Guélec, ce programme, au départ, il est à l'intention de vos étudiants, mais élargi?
Bah oui, visiblement, j'espère qu'il va parler à beaucoup de gens. Il me semble justement que Goya s'y prête, ses œuvres s'y prêtent, son discours très très critique et très moderne s'y prête, et du coup, je pense que tout le monde peut s'y retrouver et être intéressé par ces différentes interventions.
Bien, merci d'être venu présenter donc cette initiative. 24, c'est un mardi, 25, c'est un mercredi, à l'Université de Lille Sciences Humaines et Sociales pour le mardi et au Palais des Beaux-Arts le mercredi. Et à très bientôt. Donc, merci Maud Le Guélec.
Merci.